petits ou grands, enfants ou géants, petits frères ou grand-mères, voici l'heure des oreilles buissonnières. Bonjour à vous, petites oreilles buissonnières, et les grandes aussi d'ailleurs. Ah oui, oui, parce que même les grands ont droit de tordre l'oreille au métro-boulot-dodo et de redevenir un peu petits quand même pour s'aventurer sur les chemins broussailleux de la curiosité et de la liberté. Le principe, je le rappelle, une question que je pose suivie de réponses spontanées d'enfants, de celles d'un adulte éclairé et de celles aussi de chanteurs et d'écrivains à travers leurs textes, leur musique et leurs refrains. Alors aujourd'hui, même pas peur des ronces et des orties, empruntons les chemins buissonniers de Radio Méga 99.2 pour répondre à une question épineuse. Pourquoi et comment tombe-t-on malade? C'est Annabelle Faye, médecin généraliste remplaçante, qui vous fera part des fruits de sa connaissance. Ah oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que qui dit ronce dit mur et qui dit ortie dit... Bon, bref, belle écoute et bon voyage au pays des cellules et des globules.
Quand on fait un bisou à une personne qui est malade, et ben on peut attraper sa maladie facilement, ou quand on est en contact avec la personne malade.
On tombe malade aussi parce que, par exemple, on est en t-shirt, alors qu'il fait un degré, et qu'on se roule tout le temps par terre.
Ici, pour avoir une maladie, il faut faire attention aux microbes, parce que si ce sont des vieux microbes, ils peuvent des fois se transformer en virus. Donc il faut faire très attention.
Aussi, quand on va chez le coiffeur, par exemple, il y a des catalogues et ça peut être touché par des malades et nous on le touche et on devient malade.
Bien souvent, quand on monte plusieurs étages en ascenseur, quand tu appuies sur le bouton, il y en a peut-être qu'il y en a bien souvent qui eux aussi, avant, ils étaient malades et qui appuyaient sur le bouton.
Bah moi, je pense qu'une maladie, c'est comme plein de petits virus qui sont dans l'air et que quand on les respire, bah, on devient malade.
Il y en a, en fait, ils se grattent le nez souvent. Et puis aussi après, à chaque fois, ils touchent les autres. Donc après, ça contamine les autres.
Il y a des petits globules, qui sont bons pour notre corps. On va appeler ça les défenseurs. Et il y en a, la maladie, elles sont avec des armures et ils viennent attaquer les défenseurs. Et après, si notre corps, il a la fièvre, il monte parce qu'il se défend et il a chaud. Et c'est pour ça qu'on tombe malade après.
Et donc, quand on a un microbe qui s'infiltre dans notre corps, après, il y a des défenses naturelles où on prend des médicaments et après, voilà.
Bah, on dit souvent que moi, j'ai pas de microbe, je peux pas tomber malade. Mais tout le monde a des microbes et il y en a des bons ou des mauvais. Il y en a qui sont des virus ou des bactéries ou des maladies, ou sinon qui sont bons pour. Il y en a d'autres qui sont bons pour le corps. Voilà.
Notre corps, il se fait contrôler par notre cerveau et on peut attraper des maladies à cause des virus qui peuvent attaquer notre cerveau, donc ça nous affaiblit.
En fait, notre corps il marche à un certain rythme. Et si on augmente le rythme, et ben après, ça peut causer des dégâts.
Ben c'est vrai aussi, notre corps, il marche à un rythme régulier. Et quand on fait par exemple des courses au temps et que on court trop vite et pas assez régulier, donc enfin après t'es essoufflé, ben notre cœur il bat de plus en plus vite et ça c'est pas très bien.
C'est un tout petit moteur. Qui tape, tape à toute heure. C'est un tout petit moteur. Et ce tout petit moteur qui tape, tape à toute heure. Qui tape, tape à toute heure. Ça n'est que ton petit cœur. Ça n'est que ton petit cœur. Qui tape, tape à toute heure. Qui tape, tape à toute heure. Comme un tout petit moteur. C'est un tout petit moteur. Qui tape, 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 tape,
C'était donc le petit moteur de Henri Dess sur les oreilles buissonnières sur 99.2. Et c'est Annabelle Faye, médecin généraliste, qui va vous répondre à la question « Pourquoi et comment tombe-t-on malade ?»
Alors, je vais d'abord répondre à la question de « Comment tombe-t-on malade ?» On va dire qu'il y a de nombreuses causes qui interfèrent souvent les unes avec les autres, c'est-à-dire qu'une maladie est souvent le résultat de plusieurs causes de types différents. Alors, bien évidemment, il existe les causes de type infectieux, souvent évoquées par les enfants avec les virus, comme la grippe, avec des maladies d'origine bactérienne, comme les infections du poumon, ou des infections de la peau dues à des champignons. Il existe également beaucoup d'autres causes, comme les causes génétiques. En fait, nos cellules qui composent notre corps ont toutes ce qu'on appelle des gènes, c'est-à-dire c'est des petits messagers qui constituent l'identité d'une personne.
Un peu comme une carte d'identité, par exemple.
Voilà, c'est ça, exactement. Par exemple, une maladie d'origine génétique, comme la trisomie 21, parce qu'on va avoir trois chromosomes dans nos gènes numéro 21, tout simplement, et qui vont donc provoquer cette maladie bien connue. À noter qu'une cause génétique donc peut être héréditaire, c'est-à-dire on peut l'avoir parce que nos parents l'avaient aussi, ou alors ça peut être une cause que nos parents n'avaient pas et qu'on a nous parce qu'il y a eu un problème au moment de la formation du bébé dans le ventre. Il y a également des causes liées au vieillissement, comme la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire les personnes âgées qui ne savent plus, qui ont des troubles de la mémoire. Il y a également des causes d'origine métabolique. Alors métabolique, ça veut dire qu'il y a des problèmes de fonctionnement provenant de petites glandes qu'on a dans le corps et qui sécrètent normalement des substances qu'on appelle hormones qui peuvent être trop sécrétées ou pas assez. Par exemple, les problèmes de thyroïde, qui est la glande qu'on a dans le cou, est un exemple de ce type de maladie. On a également des causes d'origine toxique. Par exemple, si on boit trop d'alcool, on peut avoir un cancer du foie. Si on fume trop, ou si on fume tout court d'ailleurs, on peut avoir des cancers du poumon, de la langue, de l'estomac, on peut avoir des maladies des vaisseaux. Il existe également des toxiques environnementaux, par exemple les produits chimiques qui peuvent également provoquer des cancers ou d'autres atteintes diverses et variées.
Les pesticides qu'il y a dans nos pommes, par exemple.
Voilà, bon, je vais pas trop rentrer dans le débat parce que je suis pas au courant des dernières études sur le sujet pour être tout à fait exacte, mais effectivement, ou comme l'amiante qui avait fait débat à une certaine époque avec les problèmes pulmonaires que ça entraîne. Voilà, il y a également des causes de type inflammatoire, c'est-à-dire liées à notre système immunitaire, les fameux petits soldats dont parlait l'un des élèves, qui peuvent être, par exemple, il existe les réactions allergiques qui sont un exemple de problèmes du système immunitaire. Et pour finir, je parlerai des causes alimentaires, c'est-à-dire si on mange trop riche, trop de sucre, trop de gras, on peut avoir le diabète. Si on mange trop gras, on peut avoir des maladies du cœur et des vaisseaux. Si on mange pas assez de fibres, on peut avoir des problèmes, des cancers digestifs. Ou si on mange trop salé, on peut avoir la tension artérielle un peu trop élevée. Voilà, parmi toutes ces causes, je préciserai que certaines viennent de nous. Elles sont dans notre corps, elles ne sont pas dues à quelque chose d'extérieur, alors que les causes, par exemple, infectieuses ou toxiques, viennent de l'extérieur et n'étaient pas en nous au départ. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent ces causes sont intriquées, c'est-à-dire qu'une maladie survient parce qu'il existe plusieurs causes différentes en même temps, ce qu'on appelle une maladie d'origine multifactorielle. Multi parce que plusieurs, factoriel, facteur.
Plusieurs causes.
Voilà. Par exemple, je prendrai l'exemple donc d'un homme de 50 ans dont les parents ont eu des problèmes de cœur et qui fait un infarctus du cœur. On va noter plusieurs causes à ça. Il y a une cause génétique héréditaire d'antécédent familial, une cause génétique propre qui est le sexe Une cause alimentaire, il a mangé trop de gras, du coup il a bouché ses artères. Et une cause toxique, parce qu'il a fumé. Donc là, je soulignerai la notion de facteur de risque, c'est-à-dire que un facteur de risque augmente le risque de présenter telle ou telle maladie s'il est présent. À cela se rajoute la notion de terrain. Certaines personnes sont plus fragiles et donc plus exposées à un risque de maladie. Par exemple, les personnes âgées ou les nouveau-nés et les jeunes enfants ont des défenses immunitaires moins fortes qu'une personne d'âge moyen.
Alors qu'est-ce que c'est les défenses immunitaires ?
Alors les défenses immunitaires, c'est les cellules, par exemple les globules blancs essentiellement, qui sont là pour défendre notre corps contre des attaques de l'extérieur, par exemple les virus, les bactéries, et donc qui forment une sorte de petite armée pour aller vaincre l'envahisseur, si vous voulez.
D'accord.
Voilà, pour finir sur la notion de fragilité, la femme enceinte également est un petit peu plus fragile, sans être malade, bien sûr.
Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang-froid. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes. J'ai les hanches qui se démangent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débite, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Afin de guérir au plus vite, un matin tout dernièrement, je suis allé à la visite, voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé? C'est bien simple que j'y répliquais. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur. J'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent. J'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent. Les tibias raplapla, les mollets trop épais. Les orteils, pas pareil, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Avec une charmante demoiselle, je devais me marier par amour, mais un soir, comme j'étais près d'elle, en train de lui faire la cour, me voyant troublée, elle me dit, qu'avez-vous? Moi j'y répondais, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôle, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias raplapla, les mollets trop épais, les orteils pas pareil, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. En plus de ça, je vous le cache pas, j'ai aussi quel souci, la luette trop fuette, l'œsophage qui surnage, les gencives qui dérivent, j'ai le palais qui est palais, mais les dents c'est navrant, j'ai les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent, les canines se ratatinent, les molaires se font la paire, dans les yeux c'est pas mieux, j'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche, j'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent, j'ai le menton qui est trop long, les artères trop épaires, j'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découe et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.
Donc là, finalement, vous avez répondu à la question comment tombe-t-on malade ?
Oui.
Et est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi tombe-t-on malade ?
Tout à fait. La question du pourquoi est essentielle. Ce que je viens d'exposer est très basique, très scientifique. La science, comme on le dit, répond à la question du comment, mais pas du pourquoi. Ce pourquoi, si on regarde rapidement du point de vue historique, dans l'Antiquité, ont tombé malades parce que c'était la volonté des dieux. Alors dans l'Antiquité également, on a eu Hippocrate. Hippocrate, qui est considéré comme le père de la médecine, qui était un monsieur médecin de l'Antiquité, donc, qui est en rupture avec cette conception, parce que pour lui, on tombait malade parce que c'était en quelque sorte la volonté de la nature. C'était quelque chose dans la nature qui provoquait un déséquilibre dans notre corps et donc nous rendait malades. Sa grande théorie, c'était la théorie des humeurs, c'est-à-dire que pour lui, dans notre corps, nous avions 4 humeurs, le sang, l'eau, le phlegme et la bile, en rapport avec 4 organes, et si ces humeurs étaient en déséquilibre, il y avait maladie. Et on guérissait quand on retrouvait
la bonne humeur.
Voilà.
Et la bonne humeur.
Bon, là, je fais un grand saut dans l'histoire. Je vais aller à Pasteur pour. Je prends des petits exemples un petit peu caricaturaux. Donc, Pasteur qui, grâce à l'invention du microscope, a découvert des germes infectieux, l'existence des germes infectieux. Et donc, à ce moment-là, la maladie était due à une infection par un germe. En replaçant les choses dans leur contexte de l'époque où les maladies infectieuses étaient les maladies les plus répandues, où il n'y avait pas d'antibiotiques, donc pas de traitement contre ces maladies. Si on va d'un point de vue religieux, donc ça n'a rien à voir, par exemple des religions monothéistes comme celle que vous connaissez tous, qui est le catholicisme, alors monothéiste ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul dieu. On va avoir une notion de maladie-punition, c'est-à-dire on devient malade parce qu'on a commis un péché.
Une faute.
Voilà, une faute. Donc Dieu nous punit. Si on regarde rapidement du côté des sociétés traditionnelles, donc les sociétés, par exemple en Afrique, dans certaines ethnies, on va tomber malade parce qu'un sorcier nous a jeté un sort. Donc pour guérir, il va falloir pratiquer des rites particuliers avec il va falloir pratiquer des rites particuliers pour se faire désenvoûter, c'est-à-dire faire rejeter le sort de notre corps. Après, on peut surtout soulever la question du pourquoi, mais pourquoi moi ? C'est un besoin qu'a la personne malade d'accéder au sens de sa maladie, c'est-à-dire quelle est la raison, la cause par laquelle je suis malade. Car cette maladie, c'est un mal qui est subi. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Le sujet malade essaie de faire une histoire de sa maladie pour se l'approprier, pour l'accepter, pour accepter la perte d'une partie de ses capacités, une perte momentanée ou définitive, ce qui concerne surtout les maladies chroniques, éventuellement le handicap. Donc le « parce que j'ai péché » ou « parce que j'ai commis une faute », « parce qu'on m'a jeté un sort », ce sont des façons de répondre à cette question parmi beaucoup d'autres. J'aimerais juste très rapidement préciser que la maladie, c'est d'abord quelque chose qui est vécu par le sujet, quelque chose qui est vécu par la personne qui se sent malade et qui va être plus important que l'observation du médecin. C'est la question de qui décide qu'on est malade ou pas. Est-ce que c'est le médecin qui décide que le malade est malade parce qu'il a tel symptôme, ou est-ce que c'est le sujet qui est malade parce qu'il se sent malade même s'il n'a pas de symptômes objectifs pour le médecin.
Donc il y aurait un petit peu aussi en jeu les émotions, la subjectivité du sujet finalement.
Bien sûr. Bien sûr.
Eh bien, merci docteur Annabelle pour votre réponse, vos réponses sensées et rationnelles, car moi je connais une doctoresse tout en facétie et en sornette. Connaissez-vous Toinette ? Non ? Eh bien, ouvrez vos oreilles et abreuvez-vous d'un instant du malade imaginaire de Molière. Acte 3, scène 10. Toinette. Je suis médecin ambulant qui vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher des maladies intéressantes, pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme et de fluxion, à ces fièvrottes, à ces faveurs, à ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres rouges, de bonnes pestes, de bonnes hydropisies formées, de bonnes pleurésies, avec des inflammations de poitrine, C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespéré à l'agonie pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'ai de vous rendre service. Argan. Je vous suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. Toinette. Donnez-moi votre pouls. Allons donc, que l'on batte comme il faut. Ah, je vous ferai bien aller comme vous devez. Moi, ce pouls-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin ? Monsieur Purgon. Cet homme-là ne fait pas partie des grands médecins que je connaisse. De quoi dit-il que vous êtes malade ? Il dit que c'est du foie, et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon ? Oui. Que sentez-vous ?
Je sens de temps en temps des douleurs de tête.
Justement, le poumon.
Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux.
Le poumon.
J'ai quelquefois des maux de cœur.
Le poumon.
Je sens parfois des lassitudes par tous les membres.
Le poumon.
Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre comme si c'était des coliques.
Le poumon.
Vous avez appétit à ce que vous mangez ?
Oui, monsieur.
Le poumon, vous dis-je.
Vous aimez à boire un peu de vin ?
Oui, monsieur.
Le poumon.
Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir ?
Oui, monsieur.
Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture ?
Il m'ordonne du potage,
ignorant.
De la volaille,
ignorant.
Du veau,
ignorant.
Des bouillons,
ignorant.
Des œufs frais aussi,
ignorant.
Et le soir, de petits pruneaux pour lâcher le ventre,
ignorant.
Et surtout, de boire mon vin fort trempé.
Ignorantus, ignoranta, ignorantum.
Il faut boire votre vin pur et pour épaissir votre sang qui est trop dilué, il faut manger du bon gros bœuf, de bon gros porc, de bon gros fromage de Hollande, du gros et du riz et des marrons et des gaufres pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un que j'ai formé moi-même. Et je viendrai vous voir de temps en temps tant que je serai en cette ville.
Oh, monsieur, vous êtes bien serviable.
Que diantre faites-vous de ce bras-là ?
Comment ?
Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais vous.
Et pourquoi ?
Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là de profiter ?
Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais à votre place.
Crever un œil ?
Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérobe sa nourriture ?
Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt. Vous en verrez plus clair de l'œil gauche.
Oh, cela n'est pas pressé.
Adieu, je suis fâchée de vous quitter si tôt, mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier.
Pour un homme qui mourut hier ?
Oui, oui, pour réfléchir et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Au revoir.
J'ai la rougeole, ce n'est pas drôle. Depuis deux jours que j'éternue, que mon nez coule, que mes yeux pleurent, vivement le docteur. Je n'en peux plus, ça y est j'entends, voix la consonne. Oula, ces lunettes sont énormes, je me cache vite dessous ma boîte. Mais finalement j'ai l'air bien bête, il me sourit, a l'air gentil, il me dit... Ouvre grand ta bouche et fais attendez, il faut que je me mouche. Tchoum, trop tard pour lui, j'éternuais. Mais ça m'a fait bien rigoler. J'ai la rougeole, ce n'est pas drôle. Depuis deux jours que j'éternue, que mon nez coule, que mes yeux pleurent. Vivement le docteur, je n'en peux plus. Il me dit ouvre ta chemise. Ensuite il sort de sa valise des écouteurs de baladeur. Mais c'est pour écouter mon cœur. Il me papouille, il me chatouille. Il me dit toi mon bonhomme, tu as des ganglions. Non je n'ai pas de ganglions. Il m'a regardé l'air étonné. Mais ça m'a fait bien rigoler. J'ai la rougeole, ce n'est pas drôle. Depuis deux jours que j'éternue, d'un air aimable. Votre enfant a bien la rougeole. Pendant 10 jours, fini l'école. Qu'est-ce qu'il a dit? Ai-je bien compris? Pendant 10 jours, je reste au lit. Youpi! Il m'a regardé l'air étonné, mais ça m'a fait bien rigoler. J'ai la rougeole, c'est bien plus drôle. Je prends du sirop soir et matin. Toute la journée, j'ai des câlins. Et le médecin, c'est mon copain.
Bon, la rougeole, d'accord, facile à comprendre, on entend rouge dedans. Mais la migraine, hein? Migrée, migration, migale, migmatite, mig... Bref, écoutons plutôt les contes à aimer, contes à s'aimer de Jacques Salomé pour nous répondre dans son conte de la jumelle antilope qui souffrait de migraine. Il était une fois deux petites antilopes qui avaient vécu ensemble quelques mois dans le ventre de leur mère. Quand elles étaient sorties, on avait découvert qu'elles se ressemblaient beaucoup, comme si l'une était le double de l'autre et vice-versa. Elles étaient, vous l'avez deviné, ce qu'on appelle au pays des antilopes des jumelles. Il est difficile parfois, quand on est jumelle, d'exister à part entière. Chacune a le sentiment de vivre en fonction de l'autre, d'être dépendante de ce que fait ou ne fait pas sa sœur. Elles avancent dans la vie dans une sorte de béquillage mutuel qui donne lieu à des rivalités, à des aigreurs, à des ressentiments cachés le plus souvent, même quand il y a beaucoup d'amour entre elles. Ainsi, nos deux jumelles, Colomba et Balonco, grandirent-elles ensemble, allèrent à l'école des antilopes ensemble et apprirent l'essentiel de la vie des antilopes ensemble. Mais il y avait en chacune d'elles une sorte de souffrance, comme si elles avaient dû se partager à deux la graine de vie déposée à leur conception par leurs géniteurs, leurs pères et leurs mères antilopes. Une graine de vie partagée en deux, si vous savez compter, cela donne une demi-graine. Est-ce que je vous étonnerais si je vous disais que, justement, l'une d'entre elles souffrait de migraine? Eh oui, de migraine. Des maux de tête effroyables qui étreignaient ses tempes, oppressaient son esprit durant des heures. Le médecin des antilopes avait bien tenté différents remèdes, des potions comme on en fait au pays des antilopes. Mais Colomba avait toujours des migraines terribles qui ravageaient sa vie, polluaient toutes ses activités et handicapaient sa vie affective. Un jour, un vieux sage antilope conseilla à la mère antilope de choisir deux graines de figuier et d'offrir une graine à Colomba et l'autre à Balonco en leur disant « C'est bien une graine de vie entière que votre père et moi avons déposée en chacune. Votre propre vie ne dépend pas de la vie de l'autre. Même si vous avez passé 9 mois ensemble dans mon ventre, j'ai le sentiment d'avoir pu donner à chacune des choses différentes, personnelles et uniques. Votre vie vous appartient. Vous êtes responsable chacune de sa qualité, de sa joyeuseté et de sa vivance. » C'est ce que fit la mère sans trop y croire. Car au pays des antilopes, on veut bien en dernier recours tenter de faire appel à ceux qui savent entendre les cris du silence dans la violence des mots, mais pas trop quand même, prudemment, à dose homéopathique. Vous le savez certainement, les antilopes sont très rationnelles. Elles ont une médecine technique très développée, avec des scanners, des radios, des appareils complexes qui permettent de rechercher les causes d'une somatisation en oubliant peut-être d'en rechercher le sens ou d'établir des reliances dans l'histoire d'une personne. Les médecins antilopes ont des traitements d'une efficacité redoutable qui permettent de supprimer les symptômes en un temps record. D'autant plus terrible cette efficacité si l'on accepte d'entendre que les symptômes sont des langages qui permettent de crier l'indicible, que les supprimer trop vite, trop radicalement, revient à bâillonner, à faire taire l'antilope qui les porte et les montre. Ainsi, se sont durablement installés dans la médecine moderne des antilopes de multiples malentendus et d'innombrables répétitions. Au pays des antilopes, les hôpitaux sont pleins de malades dont on n'a pas entendu les blessures anciennes, les conflits de base ou plus simplement les fidélités qui produisent régulièrement somatisation sur somatisation. Enfin, je ne veux pas vous parler de cela trop longtemps, car je ne veux pas vous déprimer et surtout vous laisser penser que j'ai des reproches à adresser aux médecins antilopes. Pas du tout. J'essaie pour ma part, moi qui ne suis pas une antilope, de les sensibiliser, de les alerter, de les inviter à écouter, à entendre et à relier entre eux des événements, des situations de l'histoire de leurs malades. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que Colomba n'a plus de migraine depuis que sa mère a remis à chacune de ses jumelles une graine de figuier représentant symboliquement la graine de vie pleine et entière qu'elle avait donnée à chacune au moment de leur conception. Et c'est une bonne chose. Voilà, c'était Conte à aimer, Conte à s'aimer de Jacques Salomé. Cette émission est finie. Je vous laisse avec ce conte à guérir, car qui a dit que seuls les médicaments soignaient ? Les mots du langage soignent parfois les mots de nos corps aussi. Et les mots de nos corps sont parfois les sonnettes d'alarme de tous ces mots que l'on ne dit pas. Voilà, c'était Anna Belfaille, médecin, Raphaël Terribilé à la technique et moi-même, Donatienne Rank. Nous vous souhaitons une très très bonne journée. Et à bientôt, bien sûr, sur les oreilles buissonnières 99.2. Thank you.